Il y a tellement d'infos que je m'y perds.
Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même.
Souvent, je trouve que tout est trop superficiel.
Je pense qu'il y a trop d'infos et...
C'est très angoissant.
La première...
J'ai besoin de repères.
Les clés...
J'ai envie de comprendre.
Arnaud Reussen.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Les Clés, où l'on va ouvrir aujourd'hui une page sombre de l'histoire de notre pays, qui remonte à l'époque où il était un état colonial et où il a organisé au Congo l'enlèvement d'enfants métis à leurs parents. Pour les placer dans des institutions religieuses, ce sont ces faits-là qui ont valu à la Belgique, en ce lundi 2 décembre, d'être condamné pour crime contre l'humanité devant la cour d'appel de Bruxelles, suite à l'action de 5 femmes métisses. Et on va prendre ensemble une petite demi-heure pour revenir sur cette histoire douloureuse, en remontant d'abord le fil de l'histoire.
La première, les clés.
Nous sommes à la fin des années 50, au Congo, qu'on appelle encore le Congo belge à l'époque. Dans ce Congo, toujours administré par la Belgique, les enfants qui naissent d'un père belge et d'une mère congolaise sont considérés par l'État colonial comme des pupilles de la nation. Ils sont, parce qu'ils sont métis, sous la tutelle de l'État et plus sous l'autorité de leur mère. Alors, les administrateurs du territoire colonial ont pour mission d'aller soustraire ces enfants à leurs parents pour les placer dans une institution religieuse. C'est ce qui va arriver parmi des milliers d'enfants dans le même cas à Léa Tavares, qui raconte son histoire à notre collègue Aline Wavreil.
J'étais âgée à peine de 2 ans. Ils sont venus me chercher. À 2 ans, avec l'armée, la police, tout ça, je me suis retrouvée à Katende, chez les bonnes sœurs là.
Léa, elle a un père d'origine portugaise et une mère congolaise. Elle va être emmenée de force dans un couvent à Katende, au Kasaï, à des centaines de kilomètres de l'endroit où elle vivait jusque-là.
Ma mère pleurait parce qu'il y avait des menaces. Si tu ne laisses pas faire, on te met en prison. Ça, c'était comme ça. Et elle pleurait parce qu'on lui arrache son enfant. Qui n'avait que 2 ans. J'avais même pas toutes mes dents. Ma mère pleurait. Elle en a eu même les ulcères à l'estomac. Elle en est morte même.
Léa, elle, va donc grandir dans ce couvent. Trop petite, évidemment, pour bien mesurer ce qui vient de se passer.
Il y avait 4 religieuses qui s'occupaient de nous.
On vous disait pourquoi vous étiez là? Est-ce qu'on vous expliquait?
Non. On nous a rien dit. Tout ce qu'on connaissait de nous, c'était nos prénoms. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Léa.
Et les conditions de vie sont très difficiles, car l'État, qui a la responsabilité de ses enfants, va être très chiche sur les moyens qu'il accorde à ces institutions religieuses qui les hébergent.
Les conditions étaient abominables. On n'avait même pas de draps, on n'avait même pas de tête d'oreiller. Tu vois les couvertures qu'on met derrière les voitures dans les coffres là? Oui, c'était des petites couvertures comme ça, usées, qu'on nous donnait pour nous couvrir. Donc, c'était incroyable. Et le matin, quand tu te lèves, un petit bébé, un petit enfant de 2 ans, 3 ans, n'a pas de lait, n'a pas de thé, n'a pas une tartine, n'a rien.
Et quand en 1960, le Congo accède à l'indépendance, que les fonctionnaires coloniaux qui avaient organisé tout cela regagnent la Belgique, beaucoup de ces enfants vont être livrés à eux-mêmes. Obligés d'essayer de renouer les fils avec une famille dont ils n'ont plus aucune nouvelle depuis des années.
À l'âge de 8 ans, les religieuses m'envoyaient aller chercher ma maman. J'ai 8 ans. Je quitte Katende pour aller chercher ma mère que je ne savais pas. Où est-ce qu'elle était? Je m'accroche à une amie qui partait aussi. On m'a donné simplement pour payer le transport de Katende à Lusambo. C'était 50 francs, je crois, quelque chose dans ce genre-là. J'avais 8 ans.
Mais pourquoi donc l'État colonial voulait-il comme cela cacher ces enfants métis, les soustraire à leurs parents, les retirer du monde, en quelque sorte. Pour le comprendre, il faut en revenir à la nature même du régime colonial. C'est aujourd'hui bien documenté par les historiens. L'ordre colonial reposait sur la proclamation d'une hiérarchie raciale. Les Blancs étaient considérés comme étant biologiquement et culturellement appelés à dominer les non-Blancs. Mais pour autant, des relations existaient entre des hommes blancs et des femmes noires, l'inverse aussi d'ailleurs, des relations plus ou moins éphémères, parfois consenties, parfois pas, des relations dont vont naître des enfants métis. À l'époque, le terme utilisé est d'ailleurs terrible, puisqu'on ne parle pas de métis, mais de mulâtre, qui vient de mulet, c'est-à-dire fruit de l'union entre l'âne et la jument. Et très tôt, l'État colonial va considérer que ces métissages entre blancs et noirs sont un problème. Écoutez ce que disait par exemple Pierre Nolf, médecin qui sera ensuite ministre dans un gouvernement belge en 1930.
Un mulâtre est le dépositaire de caractères blancs et de caractères noirs juxtaposés, mais entre lesquels aucune fusion ne s'opère. À aucun moment de son existence individuelle, les chromosomes paternels ne contractent avec les maternels d'autres rapports que ceux de voisinage.
Et un peu plus loin, le même Pierre Nolf ajoute encore.
Le métissage trop largement pratiqué avec une race inférieure constitue pour la race supérieure le plus grave danger, en l'occurrence la déchéance.
Ces mots-là donc, avec d'autres, ont fondé pour l'État belge colonisateur ces enlèvements d'enfants métis, des faits qui aujourd'hui valent à l'État d'être donc condamné pour crime contre l'humanité. Et avec nous pour prolonger cette évocation, il y a Assoumani Boudagwa, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes congolais d'origine, nationalisé belge, et vous êtes un des meilleurs spécialistes de cette question chez nous, notamment au travers d'un livre qui fait référence sur la question Noir, Blanc, Métis, la Belgique et la ségrégation des Métis du Congo belge et du Rwanda au Burundi. Alors, d'abord peut-être un étonnement, Assoumani Boudagwa. J'ai l'impression que cette affaire, on n'en parle que depuis une quinzaine d'années en Belgique, alors qu'on a des faits qui remontent, on l'a dit, à avant 1960, forcément, la fin de la colonisation. Pourquoi est-ce que ça a mis autant de temps avant que cela n'arrive dans le débat public? Et puis, ce qui vient de se passer ici, avec d'abord des condamnations politiques, puis maintenant une condamnation par la justice, pourquoi est-ce que cette histoire est restée comme un peu oubliée ou cachée pendant aussi longtemps?
Il faut savoir qu'à partir de 1935, le ministère des colonies a décidé de s'approprier de cette histoire et de la retirer du domaine public. Pour ce faire, deux commissions ministérielles ont été établies, l'une en 38-39 et l'autre en 47, du fait que les commissions ministérielles n'avaient pas le devoir de publier leur compte rendu. Et c'est d'ailleurs en retrouvant les comptes rendus originaux que je me suis rendu compte de la véritable problème. Et donc pendant de nombreuses années, dans le domaine public, on n'a pas évoqué cette question. Il a fallu attendre pratiquement 2010 pour que Mme Colette Braeckmann, en visite au Congo, au Rwanda, au Burundi, sorte un dossier du soir avec des témoignages, mais lesquels témoignages ont certes été entendus, mais dont on n'a pratiquement rien tiré. En 2014, après près de 30 ans de travaux, j'ai publié mon livre intitulé « Noir, blanc, métis, la Belgique et la ségrégation des métis du Congo belge et du Rwanda au Burundi 1908-1960 ». J'ai fait une conférence de presse au cours de laquelle M. Luc Malguem, du Centre régional du libre examen à Bruxelles, est venu me trouver en me disant que ce serait intéressant d'organiser une grande rencontre autour de ce livre. Et la rencontre a eu lieu le 16 octobre 2014 à la Maison du Livre à Bruxelles. Et à cette occasion, il y avait une centaine de personnes. Beaucoup se sont dit « il est temps qu'on interpelle le gouvernement ». Et je me suis engagé à ce moment-là à accompagner tout qui voudrait interpeller le gouvernement. Et on a commencé par le Parlement francophone bruxellois, qui, lors de Génie de l'hémicycle, a pu entendre les premiers témoignages avec énormément d'étonnement, puisque beaucoup de politiciens belges n'étaient pas du tout au courant de cette question, mais ont fait preuve, je dois y insister beaucoup, d'empathie. J'ai vu des hommes et des femmes pleurer en écoutant les témoignages. Et donc, voici, depuis 1935 jusque pratiquement 2014, une histoire occultée, oubliée, et même dont les historiens ne parlaient que lorsqu'ils évoquaient l'instruction au Congo en disant qu'il y avait des écoles spéciales, il y avait des enfants métis qu'on envoyait à l'école, mais sans plus.
On n'avait jamais essayé de vraiment comprendre et retracer le fil de ce qui s'était passé et puis d'écouter ces personnes qui, pour certaines, sont encore en vie aujourd'hui et qui peuvent nous raconter, comme Léa, que l'on vient d'entendre, Léa Tavares, raconter ce qui s'était passé concrètement. J'imagine aussi que ces personnes qui ont été victimes n'avaient pas forcément accès à la parole. Il y avait d'un côté un État qui cachait un peu cette histoire honteuse et puis des victimes pour qui c'était pas forcément simple de pousser la porte des médias, des parlements, pour faire entendre cette histoire, raison pour laquelle aussi, sans doute, il a fallu du temps.
C'est exact. Il faut savoir qu'un des gros efforts de l'État colonial belge consistait à effacer de la mémoire de ses enfants l'image de leur maman. On leur a dit que leur maman les avait abandonnés, que leur maman était des femmes de mœurs légères. On a essayé de leur faire croire que le fait d'être rassemblés dans les orphelinats, c'était un privilège. Beaucoup y croient encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et donc, la plupart d'entre eux ignoraient totalement les raisons pour lesquelles ils se sont retrouvés dans les orphelinats. On a entendu tout à l'heure, Madame Léa parlait de 2 ans. Souvent, c'était 2 ans, 3 ans, 4 ans. Quand l'enfant devenait propre, qu'il pouvait marcher, on le retirait de la mère. Donc, beaucoup de gens, beaucoup de ces métis, beaucoup de ces victimes, de façon tout à fait naturelle, ignoraient tout. C'est quand mon livre a montré les soubassements idéologiques, a montré les circulaires, a montré les instructions données aux fonctionnaires, que beaucoup se sont dit « Waouh, nous avons été victimes d'une ségrégation et des enlèvements forcés ».
Oui, beaucoup n'étaient pas conscients de leur propre histoire, des raisons pour lesquelles ils s'étaient retrouvés comme ça, retirés de leur famille. Mais venons-en justement à ça, au fondement idéologique, à la façon dont tout ça a été organisé aussi par des fonctionnaires. Qu'est-ce qui dérangeait tant l'État colonial dans le métissage? On a entendu des raisons pseudo-scientifiques, enfin qui peut-être apparaissaient presque scientifiques à l'époque. Aujourd'hui, on sait bien évidemment que ça ne tient pas. Mais qu'est-ce qui fait que, pour l'État colonial belge, c'était un problème qu'il y ait des métis?
Alors, pour le comprendre, il faut prendre en considération quelques éléments. La Belgique n'avait qu'une et une seule colonie exclusivement peuplée de Noirs. Elle a hérité de 2 territoires sous tutelle, le territoire du Rwanda-Urundi, territoire peuplé exclusivement de Noirs. Dans la doctrine coloniale belge, on parle souvent de 3 piliers, l'administration, l'église et les sociétés. J'y ai ajouté un 4e pilier, c'est la race, la suprématie raciale. Et donc la Belgique, quoique tardivement entré dans le concert des nations colonisatrices, a pris conscience de ce métissage. Et il était entendu que les métis, du fait d'avoir une goutte de sang blanc dans leurs veines, allaient être les ferments de révolte. La Belgique a donc considéré, elle aussi, que ces métis, équipés de cette goutte de sang blanc, risquaient de mettre en péril les intérêts coloniaux et la pérennité du système colonial. Par ailleurs, la présence d'enfants métis dans les villages portait un coup dur à ce fameux prestige racial. Vous vous dites civilisé, vous abandonnez vos enfants. Vous vous dites civilisé, vous tuez des femmes qui sont enceintes, vous les noyez, parce qu'il y a eu des noyades de femmes enceintes. Et donc, la Belgique s'est dit, il faut retirer ces enfants du milieu où leur présence nous porte un coup dur. Il faut faire en sorte qu'ils soient retirés du milieu indigène où ils pourraient être ferment de révolte. Et c'est ça qui a amorcé le processus d'enlèvement. Mais pour légaliser le processus d'enlèvement, il fallait utiliser quelques décrets qui existaient. Il en existait 2. Un décret de 1890 qui conférait à l'État la tutelle des enfants dits abandonnés, orphelins, délaissés, trouvés. Et puis, il y avait un 2e décret de 1892 qui confiait les enfants ainsi mis sous la tutelle de l'État aux œuvres philanthropiques, notamment aux missions. On a appliqué aux métis un décret qui ne les concernait pas. Ils n'étaient pas nécessairement abandonnés, n'étaient pas nécessairement orphelins, ni laissés, ni trouvés. Et donc ces décrets ont continué jusqu'en 1952, où on a abrogé ces deux décrets et où on en a fait un autre qui prolongeait d'ailleurs ces décrets précédents.
Quelque chose qui apparaît étonnant aussi dans cette histoire, c'est pourquoi est-ce que les parents belges de ces enfants, les pères hein, pour la plupart, eux laissaient faire, parce que les mères congolaises, noires, elles, n'avaient de toute façon pas le choix, on l'entend, c'était par la force qu'on venait chercher ces enfants. Les parents belges, eux, trouvaient ça normal, laissaient faire.
Alors, il y avait deux situations. Il y avait une situation d'enfants dits reconnus par leur père. Et ces enfants reconnus par leur père, pour la plupart, les pères les amenaient en Belgique et les confiaient à des amis ou à leur famille. Le cas typique, c'est Georges Octors, le chef d'orchestre aujourd'hui décédé, que le papa a envoyé en Belgique. Mmh. Mais pour les enfants non reconnus qui, eux, vivaient avec leur maman, l'État les a considérés comme cible principale. Il faut savoir que jusqu'en 1948, par exemple, les enfants métis, même reconnus, n'étaient pas admis dans les écoles pour enfants européens, pour des raisons que je ne vais pas détailler ici. Il faut savoir aussi que les parents qui avaient reconnu leurs enfants métis ne recevaient pas d'allocations familiales. Et d'ailleurs, c'est la question des allocations familiales qui a déclenché en quelque sorte aussi la commission ministérielle de 38-39. Et la question effectivement se pose, c'est que pourquoi les parents, même ceux qui n'ont pas reconnu leurs enfants, ne les ont pas protégés, ne les ont pas défendus. Mais en tant que fonctionnaires, pour la plupart, ils risquaient des sanctions. Une des sanctions, c'était par exemple d'être muté à un autre endroit. On m'a raconté l'histoire d'un monsieur, d'un père de famille, qui vivait avec sa femme noire. Ils ont eu 4-5 enfants. Et puis, on a transféré ce monsieur dans une autre région et en disant, votre femme ne peut pas vous suivre parce que vous n'êtes pas officiellement marié. Le gars a décidé de mettre fin à sa vie.
Alors, on pourrait développer encore longuement sur cette histoire. On peut renvoyer aussi à votre ouvrage, hein, Noir, Blanc, Métis, la Belgique et la ségrégation des métis du Congo belge et Rwanda au Rundi. Mais j'ai envie qu'on en vienne à ce qui s'est joué ici maintenant, avec ce premier procès d'abord en première instance et puis un deuxième procès en appel et la décision au final de condamner la Belgique pour crime contre l'humanité. Je propose qu'on prenne le temps de réécouter justement ce qui s'est joué au niveau judiciaire et on va le faire avec Sarah Pousset.
Cette affaire a débuté en première instance en juin 2020. Les cinq plaignantes accusaient déjà l'État belge de crimes contre l'humanité et de violation des droits fondamentaux, sauf qu'à l'époque, la justice les a déboutées pour deux raisons. D'abord, le tribunal civil a estimé qu'à l'époque des faits, enlever des métis à leur famille n'était pas considéré comme un crime contre l'humanité. Ensuite, les faits dont on parle remontent à plus de 60 ans. Les crimes contre l'humanité ne sont pas limités dans le temps, mais puisqu'ici le tribunal n'avait pas retenu cette qualification, eh bien les faits étaient considérés comme prescrits. Suite à cette décision, ces cinq dames décident de faire appel. Entre-temps, leurs avocats obtiennent aussi l'accès à des archives qui mettent vraiment en lumière la démarche systémique de l'État belge de rechercher et d'enlever ces enfants uniquement en raison de leurs origines. Et c'est notamment l'identification de ce système racial qui pousse la Cour d'appel de Bruxelles à donner raison aux plaignantes. Dans son arrêt, la Cour reconnaît ces enlèvements comme des actes inhumains et de persécution qui constituent bien un crime contre l'humanité, tel que défini par le droit international. Elle condamne aussi l'État belge à indemniser chacune de ces femmes pour le dommage moral infligé à hauteur de 50 000 euros. Michèle Hirsch, l'avocate des plaignants.
C'est un jugement historique que la Cour d'appel de Bruxelles vient de rendre parce que c'est la première fois en Belgique et probablement en Europe qu'une cour condamne pour crime contre l'humanité l'État colonial belge pour avoir mené, après la guerre, une politique raciale à l'égard des enfants métis.
Cette décision judiciaire pourrait inspirer à l'étranger. C'est en effet l'une des très rares affaires où des crimes coloniaux sont condamnés comme crimes contre l'humanité.
Et quand Michel Hirsch dit « c'est après la guerre », c'est parce qu'après la guerre, il y a le tribunal de Nuremberg et que ce crime contre l'humanité, il est connu, il est reconnu par la Belgique. Et pourtant, la Belgique continue jusqu'en 60 ces faits dont on parle ici. Avec nous, dans cette émission, il y a aussi Quentin Noirfalis. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, journaliste, réalisateur. Vous êtes en train, d'ailleurs, de réaliser un documentaire au long cours sur cette affaire, puisque vous suivez ces cinq femmes qui ont finalement obtenu cette décision de justice en appel. Peut-être brièvement d'abord, pourquoi est-ce qu'elles sont allées en justice? Parce qu'il y avait eu des reconnaissances politiques en Belgique de cette affaire. On a des déclarations de Louis Michel, de Charles Michel, qui sont très claires, qui parlent déjà même de crimes contre l'humanité. Pourquoi cette décision d'aller en justice par rapport à ces faits?
Tout d'abord parce qu'elles en avaient le droit. Et que ce n'est pas parce qu'on a d'un côté des excuses telles qu'elles ont été données par l'Église, telles qu'elles ont été données par l'État belge, qu'après la question de la réparation réelle, monétaire, puisse se poser. Et aussi parce que ça a été un très très long processus pour ces cinq dames qui ont été enlevées à leur maman très jeune, qui ont subi une enfance qui était à la fois très difficile, mais où elles se sont créées entre elles une famille de substitution. Puis après, elles ont vécu, notamment pour deux d'entre elles, les grands troubles de l'indépendance en 1960, dont elles ont été des victimes collatérales directes dans le cadre de guerres civiles, de guerres ethniques, parce que l'État belge les a abandonnées à ce moment-là, alors que l'État belge en avait la tutelle et était censé normalement les protéger. Donc l'État s'est retiré très volontairement de cette tutelle à ce moment-là. Et qu'après, en fait, elles ont fait ce qu'on attendait un petit peu des enfants métis à l'époque. Il faut savoir que l'essor et l'ordre religieux organisaient des mariages entre métis. Et donc ces dames se sont mariées pour la plupart. Elles ont vécu une vie, elles ont créé un foyer. Elles ont mis en fait cette enfance traumatique un peu sous le boisseau. Sauf qu'au milieu des années 80, il y en a une d'entre elles, Monique Bitoubingi, qui est retournée en fait à Katende, qui a découvert dans une armoire, après qu'une sœur supérieure lui ait donné une clé, tout un ensemble de documents en fait sur leur enfance. Et ces documents étaient un peu le début en fait de cette réflexion, mais elles n'ont rien dit. Elles en parlaient entre elles quand elles se voyaient. Elles ont gardé des liens pendant toute leur vie, même après être arrivées en Belgique ou en France. Et ce n'est que vraiment, au ce moment-là, quand elles ont pris conscience, à travers l'ouvrage d'Assoumani Boudagua, après l'arrivée de ce début de débat de société, qu'elles, elles avaient été des victimes directes, et quand elles en ont parlé un petit peu dans leur famille au début, elles ont dit, elles n'ont pas tout raconté, on leur a dit, allez voir des avocats, elles sont allées voir Maître Hirsch et toute l'équipe qu'elle a constituée autour, et c'est là qu'il y a eu une prise de conscience, en fait, directe de l'ampleur de ce qu'elles avaient subi, et donc l'affaire s'est portée sur ces cinq cas-là, sur lesquels il y a eu un grand travail de recherche. Donc voilà, c'était un peu au crépuscule de leur vie. Elles ont toutes presque 80 ans. Une espèce de dernier combat, après finalement avoir rempli les devoirs un peu que la société attendait d'elles, d'avoir été des mères de famille résilientes malgré leur enfance brisée.
En quelques mots, Quentin Noirfalis, vous avez suivi le premier procès en première instance, et puis de très près ce procès ici maintenant en appel. Comment est-ce qu'on explique qu'on ait deux décisions différentes? Dans un premier temps, on l'a dit, débouté ici. Qu'est-ce qui a, pensez-vous, touché la juge qui finalement a rendu cette décision qui va faire date pour la Belgique, mais peut-être au-delà de condamner comme cela l'État colonial belge de l'époque, et donc l'État belge encore aujourd'hui, pour crimes contre l'humanité?
Déjà, il y a eu un temps plus long par rapport à tout ce qui est au débat en première instance, en termes de plaidoirie, pour justement un peu établir toute la doctrine. Et beaucoup de cas ont été évoqués par les avocats et les avocates des appelantes. Mais il y a notamment effectivement ce cas de Nuremberg. Donc il y a Nuremberg, les grands procès qu'on connaît, des criminels de guerre nazis. Puis après, il y a toute une autre série en fait de procès, notamment un qui portait sur des enlèvements d'enfants germano-polonais pour être placés dans des institutions sur ordre du Reich pour, entre guillemets, les arianiser, pour en faire de bons citoyens du régime nazi. Et là, dans ce cas-ci, la Belgique était partie prenante de Nuremberg. Le Reich a été condamné à cette époque-là pour ça. Donc ça faisait déjà une jurisprudence par rapport à cette doctrine là. Et d'autres cas ont été amenés dans toute la plaidoirie de Maître Hirsch, Maître Bennett et Maître Angelet, où ils ont expliqué un petit peu tout ça. Donc je pense que la juge, elle a entendu en fait leur argument au niveau du droit et de la doctrine. Et je crois que par ailleurs, sans doute à son niveau personnel, elle a aussi entendu la réalité de la souffrance. Et il y a dans le jugement un passage assez intéressant en fait, qui dit justement que sans la faute de l'État belge, c'est-à-dire si l'État belge n'avait pas enlevé à leur mère les cinq dames, elles n'auraient pas grandi loin de leur mère, elles n'auraient pas été répertoriées dans un registre de mulâtresse parce qu'il y avait une recherche active. Mm-hmm. C'était pas une recherche passive, c'était vraiment une recherche active dans les villages, à tel point que certaines mamans, parce que des mamans essayaient de sauver évidemment leurs enfants, maquillaient au charbon leurs enfants ou les planquaient dans la forêt. Et donc elle a reconnu ça, elle a reconnu vraiment la séparation du milieu familial et l'impact sur l'identité, et donc le lien causal entre la faute de l'État belge et les conséquences préjudiciables de l'atteinte aux droits fondamentaux des Applantes, au lien avec leur mère et à leur identité. Donc tout ça est établi.
Assoumani Boudagwa, un mot pour terminer, il nous reste malheureusement peu de temps, mais comment vous l'avez reçu, vous, ce jugement qui vient quelque part compléter sur le plan judiciaire un travail que vous avez fourni de longue haleine pour documenter tout cela?
Tout d'abord, à mon niveau, j'avais déjà une certaine satisfaction que la classe politique belge ait reconnu cette ségrégation ciblée et les enlèvements forcés y afférents. Hier, le sentiment qui m'a habité, c'est un sentiment d'admiration. Admiration pour Monique Tavares, qui a convaincu sa maman et ses tantes à témoigner. Admiration pour ces cinq dames qui, malgré les moqueries, malgré les suspicions, ont été jusqu'au bout, ont témoigné avec courage. Admiration pour Maître Hirsch, qui a eu une intelligence fine, une écoute dynamique, qui s'est entouré de plusieurs personnes, etc. Admiration aussi pour la justice qui s'est montrée indépendante.
À voir maintenant ce que cette affaire va ouvrir pour la Belgique et pour toutes les autres victimes de ces enlèvements organisés systématiquement par l'État colonial belge au Congo, mais aussi au Rwanda et au Burundi, puisque, comme le rappelle Quentin Noirfalis, il y a beaucoup d'autres victimes qui suivaient cette affaire avec grande attention.
Il y a encore, on estime, 2000 à 2000 personnes métisses au Congo, sur lesquelles il y a beaucoup de recherches. Il y aura un rapport parlementaire qui sortira notamment l'année prochaine, qui, eux, sont aussi dans une situation de recherche de leur identité, de leurs racines, et par rapport auxquelles, cela génère beaucoup d'attentes dans la recherche, justement, d'une forme de, soit de réparation, soit aussi de vérité historique par rapport à leur cas personnel.
Et Assoumani Boudagwa confirme, cette affaire qui est la fin d'un long processus judiciaire est aussi sans doute le début d'autre chose.
Absolument. Il faut savoir qu'il y a un groupe de métis qui avait contacté l'avocat Maître Alexis de Soif pour introduire une plainte similaire parce que eux aussi avaient été enlevés à leur famille maternelle, se sont retrouvés dans les orphelinats, notamment au Rwanda ou au Kivu. Et en 1960, une religieuse a organisé leur transfert vers la Belgique. Toutes ces personnes aujourd'hui voient des perspectives nouvelles, se disent qu'elles peuvent aussi être entendues et être indemnisées. Il faut savoir également que la résolution qui a été votée en 2018 n'est pas contraignante pour le gouvernement. Il y est question de réparation par des moyens d'ordre moral et administratif, à l'exclusion de toute indemnisation de type financière. Aujourd'hui, l'examen des indemnisations financières est ouvert. Notamment, Maître Hirsch insistait beaucoup dans la plupart des interviews ou des auditions auxquelles il a assisté sur le fait qu'il était important d'avoir une loi de réparation pour que les critères soient bien fixés et qu'on ne joue pas dans l'arbitraire.
Est-ce que vous avez l'impression, Assoumani Boudagwa, que sur le regard que la Belgique porte sur son passé colonial, sur l'examen de conscience qu'elle doit continuer à faire, sur ce qui pourrait en découler, y compris dans des réparations, de manière plus large que sur la question des métis, ce qui vient de se jouer là, avec cette décision de la Cour d'appel,
peut avoir un rôle important ?
Je l'espère, mais je n'en suis pas certain. Parce qu'il y a des lobbies coloniaux dans ce pays. Il y a des gens qui continuent à faire la propagande coloniale, à faire croire que c'est plutôt les Congolais qui sont redevables de la Belgique et pas l'inverse. On a vu les réticences du gouvernement et par ricochet aussi du roi pour présenter les excuses. Il a parlé, notre roi, de profond regret, parce que le mot excuse allait déclencher un processus de réparation. Et pourtant, quand on a installé la commission spéciale sur le passé colonial, le président de la Chambre de l'époque, Patrick De Waal, avait dit de manière très claire, il faut qu'on examine notre passé avec lucidité et responsabilité. Il faut qu'on arrive à une espèce de réconciliation. J'ai l'impression qu'il y a une classe politique dans ce pays qui n'est pas d'accord avec cette réconciliation, qui est encore assez arrogante. J'espère vivement que ce jugement va tempérer cette arrogance et va leur permettre de dire « nous risquons peut-être plus gros si nous ne prenons pas des initiatives qui pourraient être apaisantes ». Je revis dans ma tête maintenant les propos que ces dames ont tenus hier. On se sent apaisé, on se sent reconnu, entendu, écouté. Notre dignité est récupérée. Rien que ça, c'est quelque chose d'énorme.
Les mots d'Assoumani Boudagwa, auteur d'un travail très méticuleux, donc sur le sort des métis. Merci à lui, merci aussi à Quentin Noirfalis, qui suit cette affaire au long cours et dont vous pourrez découvrir le travail documentaire dans quelques mois sur la RTBF. Merci à Aline Wavreil pour le recueil de ces témoignages qui nous ont permis de raconter cette histoire douloureuse. À la réalisation sonore, Laurent Nélissen, à la prépa, Sarah Pousset et Arnaud Reusen. Si vous souhaitez découvrir d'autres numéros des clés, rendez-vous sur Ovio et sur toutes vos plateformes de téléchargement.